Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Faut juste que tu saches qu'à partir de maintenant, mon corps est à toi.
Il faut que tu te maries.
Non, je veux vivre une relation en toute confiance, sans avoir besoin de mentir.
Tu aimes une autre femme?
Oui.
Alors sois infidèle. Ne sois pas égoïste.
C'est pas tout. Vous allez voir.
Eh oui, c'est ça. On va voir ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de chute, de clown, de Buster Keaton, de trio amoureux, de burlesque et même de canotier avec Pierre Etex qui participe à la rétrospective Buster Keaton à la Cinémathèque française à Paris pour une histoire du comique entre slapstick, burlesque et clown blanc, Manu Farine.
Hommage à l'homme qui ne riait jamais par Pierre Etex, qui pensa même arrêter le cinéma en découvrant le burlesque mathématique de Buster Keaton.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme une biographie.
Oui, de l'acteur comique américain John Belushi.
Les années 70.
Les Blues Brothers.
19h35, plateau trio avec Emmanuel Mouret qui signe Caprice, où le réalisateur se met en scène en un personnage extrêmement désiré par ses actrices, Manu Farine.
Retour sur le parcours d'un cinéaste acteur qui poursuit la construction de son personnage de Candide comme pour mieux recevoir et refaire le monde.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de Zoé Sfez que l'on ouvre d'abord avec le son du jour.
J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction.
Tellement de vocodeurs qu'on dirait Booba. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est la bande-annonce du film Avenger, l'ère de Tron. Beau programme, n'est-ce pas? Le tout dernier blockbuster de Disney, en association évidemment avec Marvel, qui met en scène toute une kyrielle de super-héros. Un film qui risque fort d'être boycotté en Allemagne. Et oui, une centaine de cinémas de province refusent de diffuser ce film. Les exploitants veulent protester contre la hausse des prix réclamée par la maison de production Disney, qui est tellement sûre du succès du film qu'elle a décidé d'imposer ses conditions. Disney réclame 53% du prix du billet du film pour l'exploitation du film, sans prendre en considération, comme c'était le cas auparavant, la taille de la salle où le film est projeté. En général, on était plutôt dans les 40%. Et voilà, alors il y a eu une rencontre en urgence entre le syndicat des exploitants et la compagnie la semaine dernière, mais il n'y a eu aucun compromis qui a été trouvé. Pour les petits cinémas qui ont déjà dû s'adapter pour passer à la 3D pour ce genre de film, ces conditions sont absolument impossibles. Elles veulent absolument marquer le coup pour que d'autres distributeurs ne s'y mettent pas non plus.
Et l'on passe tout de suite au dossier du jour, consacré ce soir au Théâtre de l'Ouest parisien à Boulogne-Billancourt, qui risque tout simplement de fermer ses portes à la fin de cette saison. Malgré un excellent bilan, il n'a plus de directeur et une subvention largement revue à la baisse.
Oui, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être le top, comme on l'appelle, un Théâtre de l'Ouest parisien, c'est l'ancien TBB, Théâtre de Boulogne-Billancourt, qui au début des années 2000 était tombé assez bas en termes de billetterie. Le maire UMP de l'époque, Jean-Pierre Fourcade, avait lancé un appel d'offres remporté par Olivier Meilleur, déjà directeur du théâtre Jean Villard de Suresnes. Il a bénéficié de ce qu'on appelle une délégation de service public renouvelée en 2010. Donc il a une subvention de la mairie, mais il doit aussi faire ses propres recettes. Et en 10 ans, Olivier Meilleur a fait du top une scène extrêmement vivante, comme l'explique Pierre Gabory, il est membre du conseil municipal de Boulogne, dans l'opposition.
Alors il fonctionnait très très bien au bout de 10 ans de gestion d'Olivier Meilleur, c'est-à-dire qu'à la fois le public avait un nombreux public extrêmement fidèle, ce qui n'était jamais arrivé à Boulogne-Billancourt, et deuxièmement il y a un bilan en termes de création qui est absolument remarquable. Et un exemple que chacun retient volontiers, c'est l'exemple de la pièce créée au top de Guillaume Gallienne, Les Garçons et Guillaume à table, dont vous savez le succès en matière théâtrale, et donc grand succès, public fidèle, bilan en termes de création excellent, mais point noir dans cette affaire, c'est que le théâtre n'est pas en très bon état, parce que c'est un bâtiment qui n'est pas fait pour ça. Au départ, c'était une mairie annexe, La salle de représentation n'est pas bien adaptée, la disposition des sièges du public n'est pas bonne, l'acoustique n'est pas excellente, et la scène est trop petite. Donc il avait été décidé d'y faire des travaux indispensables.
La mairie avait dès 2007 donné son accord pour financer ces travaux, mais cette mairie a finalement fait volte-face en quelques mois.
Alors il faut savoir qu'en ces 10 ans, le maire a changé, c'est toujours un maire UMP, mais il s'agit aujourd'hui de Jean-Christophe Baguet. Celui-ci s'est donc engagé en 2007 à lancer de grands travaux. En effet, c'est la mairie qui est responsable de l'entretien du théâtre. Il devait commencer là, cette année, tout juste maintenant, année aussi où le contrat d'Olivier Meilleur arrivait à échéance. Donc dès janvier 2014, Olivier Meilleur s'est porté candidat pour poursuivre son projet pour 5 nouvelles années. Il est même le seul à se porter candidat puisque finalement le système fonctionne assez bien. Mais la mairie tarde vraiment beaucoup à signer son contrat. Et finalement, le mois dernier, elle lui fait une proposition très largement revue à la baisse, comme il l'explique lui-même.
Pour résumer, mi-mars, j'apprends que les travaux sont reportés, alors que le permis de construire avait été accordé, que le processus était largement engagé, que nous avions travaillé avec l'architecte, etc. Que la saison que j'avais prévue hors les murs devait se faire dans les murs, que le budget artistique était divisé de moitié, et enfin, on me donnait qu'un an de visibilité. Convention limitée à un an. Et tout cela pour des raisons de difficulté et d'incertitude financière et budgétaire de la ville. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai dit, je refuse cette proposition parce que, pour moi, je ne correspond pas du tout aux raisons pour lesquelles j'ai candidaté il y a maintenant plus d'un an.
Contacter la mairie de Boulogne n'a pas souhaité commenter cette décision.
Oui, et pourtant c'est une décision qui marque en fait de fait quasiment la mort du TOP, puisque, en tout cas tel qu'il existe, puisque Olivier Meilleur ayant jeté l'éponge, eh bien il n'y a personne pour reprendre le théâtre aujourd'hui. La saison prochaine est largement compromise, tout comme les 15 emplois de l'équipe qui aujourd'hui y travaille. Pour Pierre Gabory, qui est donc dans l'opposition du conseil municipal de Boulogne, un PS, cette décision de la majorité est assez incompréhensible, car si les contraintes financières existent bel et bien, selon lui, elle ne justifie pas un tel abandon. Écoutez-le.
La seule explication qu'on nous donne, c'est la restriction des crédits. Alors c'est simple. Aujourd'hui, dans l'effort du gouvernement et des collectivités locales pour réduire le déficit de la France, en gros, l'incidence sur la commune, c'est 8 millions d'euros. Et les économies sur le théâtre, c'est 9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on fait plus d'économies sur le seul théâtre qu'on a d'imposition budgétaire nouvelle. Je n'ai jamais vu ça. On ne fait jamais porter un effort budgétaire sur un seul poste budgétaire. Ça veut dire purement et simplement qu'on met à mal le théâtre, prenons les mots, qu'on l'assassine.
Voilà, alors le sort du TOP inquiète beaucoup de Boulonnais, mais pas uniquement dans l'opposition, vous l'aurez compris. Le journal en ligne de la ville a décidé de soutenir Olivier Meilleur dans une tribune qui est parue au début de la semaine. Une pétition a également été lancée il y a quelques jours, elle a déjà recueilli, alors que c'est les vacances scolaires, 800 signatures. En attendant, le théâtre termine évidemment sa saison avec, dès le début du mois de mai, la 5e édition du festival Seul en scène.
Merci Zoé, on poursuit tout de suite avec les brèves.
Et l'on ouvre avec l'Allemagne et l'Irak qui ont annoncé hier leur intention de proposer à l'Assemblée Générale de l'ONU une résolution contre le pillage et la destruction de sites archéologiques par les combattants de Daesh. Ce projet sera présenté dans les prochains jours, on l'apprend aujourd'hui. Il pourra être adopté dès le mois de mai. La résolution demandera à tous les États membres de sanctionner les responsables de ce vandalisme culturel et d'améliorer surtout leur cadre légal et administratif avant de prévenir le trafic d'œuvres d'art volées.
Juliette Gréco entame une tournée d'adieu. Elle ne dit pas adieu, la tournée s'appelle Merci.
Mais oui, non, mais elle l'a baptisée Merci, mais c'est quand même une tournée d'adieu. Elle le dit elle-même, elle explique qu'elle veut partir debout après 65 ans de carrière. Et oui, quand même, sa tournée, donc baptisée Merci, a été lancée vendredi en ouverture du 39e printemps de Bourges. Ce sera donc la dernière. Elle va durer au moins un an et elle prévoit déjà 25 dates.
L'acteur américain Ben Affleck s'excuse d'avoir menti par omission.
Oui, il avait participé à une série documentaire Finding Your Roots il y a plusieurs années, au cours de laquelle les enquêteurs avaient découvert que deux de ses ancêtres étaient esclavagistes, une information qu'il avait demandé expressément de cacher, mais qui a finalement été découverte lors du piratage des données de Sony il y a quelques mois, qui a considérablement écorné son image. J'avais honte, tout simplement, dit-il.
Et la dernière.
Et la dernière, c'est une jolie petite histoire de militaire en mal de culture, ou plutôt de loisirs. Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé aujourd'hui la gratuité des établissements culturels et de loisirs pour tous les soldats mobilisée par le plan Vigipirate à Paris. Et oui, c'est une belle consolation car en mars dernier, les militaires avaient déploré, je vous le dis clairement, et ils avaient fait une demande officielle en disant qu'ils voulaient des ristournes pour aller à Disneyland pendant qu'ils étaient en contrat à Paris. Voilà, Disneyland. Alors Anne Hidalgo a donc annoncé pour leur faire plaisir qu'ils auraient libre accès aux établissements culturels, donc elle souhaite permettre, dit-elle, à ces hommes qui pour beaucoup d'entre eux ne résident pas en Île-de-France, ils viennent de toute la France et qui connaissent peu la capitale et sa culture, d'accéder gratuitement à toutes ces belles choses que leur offre Paris pendant leur temps libre.
Ils bénéficieront la parade
d'un laissez-passer pour visiter les expositions
le
temporaires, mais non, des places pour les matchs du Stade français, des invitations pour la foire de Paris, mais aussi pour la Tour Eiffel et le zoo de Paris. C'est un geste de reconnaissance adressé à nos soldats. C'est une façon pour Paris de les remercier de la qualité de leur action au service des habitants, dont ils assurent à chaque jour la sécurité dans le dévouement le plus complet.
Elle a raison, Juliette Gréco. On ne dit pas adieu, on dit vraiment merci. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités? Pierre Etex, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez commenter?
Oh, il n'y a que de bonnes nouvelles en quelque sorte.
Oui,
et là, je suis troublé, quoi. Je ne sais que dire. Je suis un peu accablé. Il va falloir parler de comique après, c'est très difficile.
Non, vous allez voir, ça va pouvoir se faire.
J'espère.
De votre côté, Emmanuel Mouret, quelque chose que vous voudriez commenter?
Oh non, je suis un très mauvais commentateur. Non.
Très bien, alors on commence tout de suite.
Le rendez-vous.
Tu aimes une autre femme?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que Pierre Etex?
Du nom de Pierre Etex, c'est une façon pour Pierre Etex de s'exprimer.
Ah? Comment avez-vous inventé votre personnage?
Oh. Pierre Etex, ça me dit quelque chose, mon sang. Pierre Etex, ça n'est pas inconnu. C'est un metteur en scène, ça. Enfin, il a un petit peu l'avant-garde, ce type-là, non? C'est ça, Pierre Etex, quoi. C'est ça.
Plateau Buster Keaton, oui, mais avec vous, Pierre Etex, réalisateur, comédien, clown, graphiste, affichiste, magicien, gagman, artiste de music hall, Oscar du meilleur court-métrage en 63, Oscar d'honneur en 2011, vous avez signé Yo-Yo, Le Pays de Cocaine, La Rupture, Tant qu'on a la santé, des films dont vous êtes le héros récurrent, on y reviendra, et vous participez à la rétrospective Buster Keaton qu'organise la Cinémathèque française à Paris à partir d'aujourd'hui. Vous interviendrez samedi prochain lors de la table ronde Buster Keaton, cinéaste sur le fil. Une table ronde qui va faire suite à la projection de Cameraman. C'est un film de 1928, sans doute le dernier d'ailleurs, avant que le parlant n'affaiblisse complètement Keaton et que son contrat avec la MGM lui fasse perdre le contrôle de ses films. Qu'est-ce qu'un tel film, donc Cameraman, représente pour vous?
Oh, comme l'ensemble de l'œuvre de Buster Keaton, il est toujours très difficile de dissocier un film par rapport aux autres. C'est un chef-d'œuvre de A à Z. À partir des courts-métrages jusqu'au long-métrage, on peut dire que l'œuvre de Keaton est exemplaire. Évidemment, on a souvent comparé Keaton avec Chaplin. Keaton est meilleur que Chaplin, Chaplin est meilleur que Keaton. Il n'y a rien de comparable. C'est comme si on comparait Beethoven et Brahms et, je sais pas, et Mozart avec... Ça ne veut rien dire pour moi. Ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai un amour éperdu pour l'œuvre de Keaton, parce que c'est quelqu'un qui est toujours allé à la recherche de la simplicité. Ouais. Et c'est au fond la qualité majeure dans n'importe quel art. Et ce qui est merveilleux chez Keaton, c'est qu'il s'accomplit dans chacun de ses films. Il a eu une formation acrobatique, évidemment, qui était une formation de rigueur, et qu'il a poursuivi toute sa vie en disant « Je ne suis pas acrobate, je suis un cascadeur ». C'est un grand signe d'humilité. Et il faisait les cascades, effectivement, comme personne n'a jamais pu en faire d'autres.
Il y a une cascade particulière qui vous a marqué
dans ce film? Dans tous ses films, il y en a une, oui. En particulier, voilà. C'est celle où il est accroché à une manche d'eau sur une voie ferrée. Et l'eau coule à un moment et le cloue sur le sol. Et il a les cervicales brisées. Il s'enfuit jusqu'à la ligne d'horizon avec cette brisure qui devait le faire souffrir abominablement. Et il ne manifeste rien de désagréable, au contraire. Et ça, pour moi, c'est un tour de force rarissime.
Par où vous êtes rentré dans l'univers de Buster Keaton, vous qui avez été élevé à Charlot, Laurel et Hardy, à Harry Lloyd? Oui. Sachant que avant-guerre, Keaton était oublié.
Il a été oublié pendant 40 années, ce qui est totalement injuste. Et... mon père me parlait toujours de Buster Keaton comme un exemple, un grand modèle, quelqu'un de rarissime. Et je me disais, mais si cet homme était aussi extraordinaire que mon père m'en fait le descriptif, ça devait être plus fort que Charlie Chaplin. Il me disait, non, ça n'est absolument pas comparable. L'un et l'autre sont extraordinaires. Mais Keaton a une particularité, c'est qu'il est infiniment drôle. Chez Chaplin, il y a ce mélange, justement, de choses dramatiques et mélodramatiques. Et chez Keaton, il y a une sensibilité, mais une sensibilité extrêmement réservée. Et j'ai découvert Keaton lorsqu'il a fait le don à la Cinémathèque de tous ses films. Alors ça a été merveilleux, c'était Raymond Rauer qui était l'agent de Buster Keaton, qui avait retrouvé tous ses films, les avait fait restaurer. Et lorsqu'il est venu à Paris, Keaton en a fait don à la Cinémathèque. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ils vont être réexploités pour qu'enfin on le découvre.
Dans votre propre parcours de cinéaste, Emmanuel Mouret, qu'est-ce que Keaton peut représenter, vous qui travaillez le burlesque aussi, on en parlera tout à l'heure dans vos films.
Quelqu'un de très important qu'on ne peut absolument jamais oublier. Pour résumer, je dirais ce qu'il représente, ce n'est pas un personnage tant qui me fait rire, mais qui m'émeut beaucoup. Il dégage une émotion qui n'est pas du tout la même en effet que Charlie Chaplin, qui peut déclencher les larmes, qui est plus dans le mélodrame, il a une émotion de son corps et il a un aspect de par son visage, cet aspect fataliste. Ça veut dire il tombe, on lui tape dessus et jamais il va éprouver une quelconque rancœur, amertume ou méchanceté. Il va continuer droit son chemin et voilà moi l'émotion en tout cas que j'ai immédiatement lorsque je pense à Buster Keaton.
Pierre Etex ?
C'est absolument vrai. Et il s'engage seul à la poursuite de voyous qui ont volé une locomotive, sa locomotive. Et il y a une foule qui se trouve derrière lui, il leur fait signe de venir sur la voie ferrée, il court derrière la locomotive pour la rattraper. Mais les autres abandonnent et lui continue seul. Il est téméraire et ça, c'est remarquable. Je veux dire, c'est un homme extrêmement courageux, mais qui exprime quand même beaucoup de sentiments à travers des regards, simplement. On a dit qu'il est impassible. C'est faux. Il n'est pas impassible. Mmh. Il ne rit pas, mais il a une densité dans le regard qui est unique.
Et surtout, enfin, dans son regard amoureux, c'est ça qui est...
C'est extraordinaire. Il traduit tous les sentiments à travers ce regard. Il baisse un sourcil, il baisse une paupière, et ça devient extraordinaire. Tout ce qu'il fait, remarque, moi, je suis totalement inconditionnel. Alors,
Manu Farine.
Alors, Keaton, c'est aussi un canotier, comme Chaplin, c'était une canne et un chapeau melon, Tati, éventuellement une pipe. Comment est-ce que vous comprenez cette condition presque accessoire et graphique à la construction du comique ? Et c'est une question que je pose au graphiste et à l'illustrateur que vous êtes, Pierre Etex.
Ça n'a pas beaucoup de rapport, le graphisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé au music hall, au cirque, enfin dans les deux, et là, il a fallu qu'ils trouvent leur personnage, parce qu'ils n'auraient jamais pu faire ça s'ils n'avaient pas eu le public en référence. Et en fonction de quoi, ils ont trouvé des choses qui n'étaient qu'à eux. C'est-à-dire qu'en essayant des chaussures trop grandes, je ne sais plus qui avait dit à Chaplin un jour, essaye ces chaussures. Je crois que c'est Stan Laurel qui lui avait dit. Je crois. Je n'affirme rien. Et il a essayé et il a trouvé tout de suite le petit vagabond qui avait une infinie distinction. Et ça n'est venu qu'au cours du temps. Et c'est-à-dire que il n'a pas, dès le départ, dit « je veux être comme ça ». En effet, quand on regarde les tout premiers films de Charlie Chaplin, il a un chapeau de forme, il a une moustache, il a un monocle, enfin, autant de choses. Et puis un beau jour, il a découvert ce personnage au cours du temps. Et ça, c'est absolument remarquable parce que aujourd'hui, ça n'est plus possible. Les gens ne peuvent plus se produire régulièrement dans des music halls et dans des cirques. Et ça, c'est regrettable parce que c'est le seul apprentissage valable pour moi.
Qu'est-ce qui vous a, vous, finalement, amené à choisir votre personnage ? Parce que vous aussi, vous l'aviez construit, une allure réservée, un costume et un chapeau, quelque chose qu'on trouve dès le soupirant Pierre Etex.
Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait du music hall. Et au début où j'ai commencé en cabaret, bien sûr, et en music hall, j'avais tendance à croire que ce qui faisait rire était une défroque particulière. Je mettais donc un pantalon en tire-bouchon, une veste trop grande, je me collais une moustache, enfin autant de choses qui pour moi étaient des éléments qui allaient souligner le comique. En fait, c'est une erreur colossale. Un jour, un de mes amis qui était directeur du Cheval d'Or, qui est d'un cabaret qui était remarquable, me dit « Écoute, si c'était Tino Rossi qui fasse ce que tu fais. Ça a été lumineux pour moi. Je me suis dit, je me fais faire un smoking. Et je me suis fait faire un smoking. Et à partir du moment où j'ai eu le smoking, j'ai fait les choses très sérieusement. Et c'était d'autant plus drôle. C'est comme ça que les choses ont fonctionné. Mais il a fallu beaucoup de temps quand même pour que ça se fasse.
Ouais, excellent. Manu.
En 2013, donc il y a très peu de temps, Pierre Etex, vous avez édité un DVD qui rassemblait 5 courts-métrages, 3 courts-métrages à vous, hein, il y avait En pleine forme, Rupture et Heureux anniversaire, un court-métrage de Buster Keaton, La maison démontable, One Week, et Charlot fait une cure, The Cure, de 1917, donc tout ça période muet. Qu'est-ce que ce programme, c'est-à-dire vos 3 courts-métrages et ces deux-là, de Chaplin et de Keaton, voulaient écrire comme histoire?
Alors là, c'est une question bien embarrassante. D'abord parce que la comparaison est abusive. Moi, j'ai adapté immédiatement cette expression-là. Quand j'étais enfant, j'ai été fasciné par Charlie Chaplin et Laurel et Hardy, etc. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que, à aucun moment, je n'ai eu la prétention de me comparer à ces gens-là. Ce qui est sûr, c'est que, pour moi, la signification qu'a cette démarche, c'est simplement que j'ai emprunté la même voie, modestement, avec mes petits moyens, et je pense que c'est quand même des choses qui sont de la même famille, sans comparaison aucune sur la grandeur des œuvres de Chaplin et de Keaton.
Dans ce programme dont vient parler Manu Farine, il y a donc Rupture. C'est le tout premier de vos courts-métrages, une histoire de séparation amoureuse. C'est un film réalisé avant que vous ayez vu les Buster Keaton. Est-ce qu'il y a eu pour vous un avant et un après Keaton dans votre propre cinéma, Pierre Etex?
J'ai été terrifié lorsque je me suis aperçu, lorsque j'ai découvert Keaton dans son œuvre, ayant tourné ce premier court-métrage, où je me suis aperçu que c'était des choses de même famille. L'adversité des objets, etc., ou des situations. Et de garder un certain self-control est une chose que j'avais appris au music hall, encore une fois. Et ça, lorsque j'ai découvert l'épanouissement que proposait Keaton, j'ai été absolument écrasé. Je me suis dit, mais je ne ferai plus jamais de cinéma. Et en fait, j'ai été aussitôt absorbé par une autre idée qui m'est venue. J'ai fait donc le second court-métrage avec un coup de carrière.
Qu'est-ce que représente pour vous Pierre Etex? Emmanuel Mouret. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cinéma qui ne ressemble pas vraiment, mais qui peut y participer.
Évidemment, on va dire le trait d'union avec une histoire du cinéma, avant tout. Un passeur, puisque c'est grâce à Pierre Etex, à ses films, mais aussi à tout ce qu'il a pu produire, on va dire, autour et de par ses paroles, justement, autour de Buster Keaton, de Jacques Tati, tout ça. Donc, voilà. Donc, je suis d'ailleurs très ému d'être à côté de Pierre Etex.
Deux réalisateurs et acteurs de leur propre film. Manu.
Rupture, donc ce premier court-métrage dont on parlait, Pierre Etex, suit votre expérience avec Jacques Tati, justement, dont vous parliez à l'instant, Emmanuel Mouret. Vous veniez, vous, donc du musical et du graphisme. Quels sont les outils que Tati va vous donner, finalement, pour après poursuivre votre route côté cinéma?
Je veux dire que Tati m'a demandé de travailler avec lui, ce que je n'attendais pas du tout. Il avait vu des dessins que j'avais faits, il m'a dit « Vous avez le sens du gag et d'observation. Est-ce que vous voulez travailler avec moi sur mon prochain film ?» Et je lui ai dit « Mais je ne connais rien du cinéma. » Il m'a dit « Vous savez, vous comprendrez très vite, c'est pas compliqué. C'est très simple. » Et effectivement, j'ai tout appris du cinéma à travers ses méthodes de travail. Je suis passé par tous les échelons. Et ça a été une progression dont je ne me suis même pas rendu compte. Ça a duré 4 ans et demi. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ayant quitté Tati, je n'avais aucune envie de faire du cinéma. Je pense que j'avais été très impressionné par Tati au départ, par son style. Et puis, au cours du temps, je contestais parfois ce qu'il voulait faire. J'essayais de lui glisser que c'était peut-être pas la bonne solution, etc.
Par exemple, sur quoi vous voulez le contrer, par exemple?
Je vous explique. Dans Mon oncle, par exemple, il y a toute une séquence avec des tuyaux de plastique qui deviennent de la saucisse, enfin bon, tout ça. Et il avait une expression quand il voulait dénigrer quelque chose, il disait « Oh ben ça, c'est les pieds nickelés au Far West ». Et je lui dis un jour, ayant lu le découpage qui avait été établi, et je lui dis, écoutez, j'ai l'impression que la séquence des tuyaux dans Mon oncle est un peu en porte-à-faux et que elle est un peu les pieds nickelés au Far West. Je sais que je l'ai blessé à mort, mais qu'importe, je sais très bien qu'il en a tenu compte et qu'il a coupé beaucoup de choses. Mais bon, c'était un échange, mais je ne prétends pas avoir eu la moindre influence sur Tati. Mais c'est un métier dans lequel il faut avoir des rencontres. Il faut avoir des gens qui aient une opinion sur les choses. À l'époque où les gagman étaient nombreux, ils travaillaient ensemble et ils se permettaient tout.
En parlant de rencontres, je sais que vous avez été lié à Jerry Lewis et que vous auriez même tourné un film de lui, une histoire de clown et de camp de concentration. C'est un film qui n'est jamais sorti. Vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour une simple et pure raison que Jerry a décidé de ne plus jamais en parler. Moi, je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Il a tourné en Suède et je n'ai jamais vu ce qu'il avait tourné. Ce que je sais, c'est que je n'ai pu constater que ce que nous avons fait en France ensemble. C'était très peu de choses ce que je faisais. Mais ce qui était intéressant, c'était cette rencontre avec Jerry. Parce que Jerry est un homme absolument extraordinaire. C'est un homme de spectacle comme il n'y en a plus.
Qu'est-ce que vous faisiez dans ce film ?
Je faisais un clown, justement, qui faisait rater son entrée à un autre clown. C'est-à-dire que j'étais le roi des clowns dans un cirque et j'étais en habit et avec une queue de pie très très longue. Et Jerry était une espèce de serviteur qui tenait cette queue de pie. Au moment où j'entrais dans la piste, je faisais une cascade parce qu'il tirait trop fort sur la queue de pie. Et là, il se ridiculisait ainsi et il était mis à la porte par... En fait, le scénario a suivi beaucoup de métamorphoses. Et au début, c'était en public, dans le cirque en public. Et les gens le huaient. Et là, après, il n'avait pas les moyens d'avoir le cirque d'hiver plein de figurants. Donc, c'était simplement une répétition générale devant le directeur. Donc, ça amenuisait déjà les choses. Mais enfin, récemment, il a dit clairement que ce film était un film dont il ne voulait plus jamais parler, parce que c'était un film qui était raté. Il n'avait jamais fait ce qu'il aurait voulu faire.
Manu.
À propos de Clown Pierre et Tex, vous avez commencé, en tout cas longtemps fait, l'Auguste, avant de passer au Clown Blanc. Oui. Qu'est-ce qui avait rendu ce changement-là nécessaire ? Est-ce que ça a été un moment particulier, précis, de votre parcours ?
Ah oui, ça a été un moment décisif, parce qu'en fait, ma véritable vocation, et je n'en étais pas vraiment conscient, c'est que j'étais plus fait comme faire valoir que comme comique, proprement dit. Et lorsque j'ai rencontré Annie Fratellini, nous avons débuté ensemble au Cirque Pinder, et j'ai décidé à ce moment-là, après avoir fait de nombreux galas, j'ai décidé de faire le clown pour la faire valoir. Parce que ce qui est important, c'est de bien connaître son partenaire. Et connaissant ses possibilités et ses ressources comiques, il faut les provoquer. Et c'est presque du travail d'improvisation au moment où on fait une entrée. L'entrée est rigoureusement construite et au moment où on l'exécute, il y a toujours un petit détail dont il faut savoir profiter. Et c'est ce que j'ai fait au début. Et je l'ai fait valoir pendant de nombreuses années et ça a été pour moi un véritable régal que de faire ce métier-là de clown. Et encore aujourd'hui, quand j'y pense, je suis plus enclin à faire valoir les autres qu'à me produire moi-même.
Quand vous écriviez vos scénarios avec Jean-Claude Carrière, vous disiez, je vous cite, « Le cinéma comique français, c'était de la comédie bavarde, issue du théâtre, avec des mots d'auteur, tout ce que j'avais envie de fuir. » Qu'est-ce qu'il fallait contrer pour vous, véritablement ? Quel était votre positionnement face à cette histoire de la comédie ?
J'ai toujours fait une différence fondamentale entre la comédie bavarde, bien sûr, la comédie de boulevard, le théâtre de boulevard, et... le cinéma comique. J'ai été nourri par les films de Chaplin, le Laurel et Hardy, donc c'était pour moi d'abord physique. C'était le comique qui, pour moi, passait les frontières très facilement. Il n'y a pas d'explication à donner, il n'y a pas de jeu de mots à faire pour que les gens s'amusent. On s'amuse de situations très simples qui peuvent déboucher parfois sur des choses complètement fantastiques, mais à partir d'une observation. Et ça, c'est ce que Tati a emprunté beaucoup.
Comme à tous nos invités, Pierre et Tex, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué. Et voici ceux que vous avez choisis. Je dis ceux au pluriel.
Hein.
Ils sont nombreux. Montage de Thomas Beau.
Thank you.
identification de ces sons nombreux, enfin peut-être pas tous les identifier parce que je pense qu'on peut les reconnaître, certains, mais pourquoi avoir choisi précisément tout cela?
Quand on me demande quels sont les sons qui m'ont frappé, j'ai toujours été frappé par les sons, quels qu'ils soient. Et ça a été une rencontre formidable pour le cinéma, pour moi, parce que les films muets de l'époque, chez Keaton particulièrement, le son était toujours évoqué par l'image. Et ça, c'était formidable. Moi, j'ai beaucoup utilisé le son dans mes films, et particulièrement la cloche. Il y avait une cloche au beffroi de l'hôtel de ville de la ville d'Orwan dont j'étais originaire, et j'entendais sonner cette cloche la nuit qui m'impressionnait beaucoup. Je l'ai toujours mis à l'intérieur de mes films, soit pour des événements joyeux, comme par exemple à la fin du Soupirant, il y a une cloche qui tinte au loin, on ne sait pas pourquoi. Et dans Le Grand Amour, il y a aussi une scène où il est accablé, il rentre chez lui, il est seul, et on entend clang, une demi qui sonne, quelque part, on ne sait pas où. Et ça, c'est toujours des éléments qui apportent une émotion au spectateur. Parce qu'il faut savoir les placer où il faut les sons pour qu'on s'en émeuve.
Vous aviez choisi aussi un crapaud ou une grenouille qui fait un son précis.
Oui.
Qui.
Tout, tout, tout. J'ai jamais su.
Pourquoi
exactement.
Pourquoi ces bruits de crapaud?
Ce bruit de crapaud, parce que j'étais en campagne dans une maison de ma grand-mère et j'étais très impressionné le soir lorsque la nuit arrivait, et parce qu'on avait la lampe à pétrole encore, c'était vraiment très rudimentaire. Et quand je voyais venir le soir, j'avais une angoisse terrible et il y avait un crapaud. Ce qui était gros comme une rainette, tout petit crapaud qui était sous un rocher. Et il y en avait un autre un peu plus loin, puis un autre plus loin, et il se répondait. Tout, tout, tout. Alors, je n'arrivais même pas à m'endormir.
Le rendez-vous, la chronique.
Pierre Etex et Emmanuel Mouret, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne avec ce soir une biographie. Alors hier, on parlait ici de la biographie d'Angelica Houston. Mm-hmm. Et aujourd'hui, un autre acteur américain.
Ils sont dans la même période, ouais. Dans les années 70. Ils se connaissaient en plus, Angelica Houston et John Belushi. John Belushi qui était une star comique de la deuxième moitié des années 70, qui devient extrêmement populaire aux États-Unis grâce à une émission télé culte qui s'appelle Saturday Night Live et qui existe encore après 40 ans existence. C'est toujours une émission, un show comique très populaire aux États-Unis, qui a révélé des générations et des générations de comiques après qui ont migré à Hollywood. Et lui, John Belushi, faisait partie de la première équipe avec Bill Murray, Chevy Chase, de Saturday Night Live. Et dans un second temps, après la popularité acquise par la télévision, le cinéma a fait appel à lui, et avec un cinéaste de sa génération, John Landis, il a fait un énorme hit du cinéma mondial sorti en 1980 avec son acolyte Dan Aykroyd, qui était aussi son partenaire au Saturday Night Live et qui s'appelle Les Blues Brothers. Donc c'est une biographie qui sort chez Capricci ce mois-ci, et dont une des particularités en tout cas est que l'auteur de la biographie est au moins aussi prestigieux et connu que le modèle de la biographie, parce que l'auteur de la biographie, c'est Bob Woodward, et Bob Woodward, c'est une légende du journalisme américain, de la presse américaine, parce que en 1972, c'est lui avec un de ses confrères du Washington Post qui a produit les premiers articles qui ont déclenché l'affaire du Watergate, et qui deux années après a été suivi par la démission du président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon. Donc Bob Woodward, c'est un peu une légende du journalisme. Qui a ensuite beaucoup travaillé sur le monde politique, a produit des bios, des enquêtes sur Obama, sur Bush, mais qui n'a jamais travaillé sur la culture et qui a une passion un peu secrète pour ce comique de sa génération, John Belushi, qui en plus était né dans la même ville que lui. Donc c'est une œuvre un peu tout à fait à part dans la carrière de Bob Woodward, mais qui bénéficie de ses techniques de très grands reporters, enquêteurs politiques. Et le livre est sidérant dans sa précision. C'est-à-dire que pendant deux années, il a enquêté et il a retrouvé des gens qui avaient été en classe avec John Belushi, des barman qui lui avaient servi un jour un cocktail, un employé de pressing qui a quelque chose à raconter. Enfin, c'est vraiment délirant, évidemment, les parents, la famille, ses maîtresses, ses chauffeurs, ses employés. Alors, le danger d'une telle matière documentaire, c'est que paradoxalement, ça ne produit plus de récits, que ça aboutisse à une sorte de traité, enfin, de rapport sur John Belushi. Et ce qui est très fort, c'est qu'il coule cette matière documentaire énorme. dans une très grande fluidité romanesque. Et ça, c'est tout l'art particulier de ce genre qu'on appelle la non-fiction, qui est un genre typiquement américain, qui produit ces articles magnifiques du New Yorker, de Vanity Fair, qui est à la fois de produire les effets du roman, du romanesque, de la dramatisation du monde, mais sur une matière qui a été vérifiée 100 fois et qui est strictement documentaire. Donc ça produit des choses magnifiques. Moi j'adore par exemple la partie sur la naissance du Saturday Night Live. C'est vraiment très beau de voir ces gens qui deviendront tous plus ou moins des stars, comme Steve Martin, Chevy Chase, Bill Murray, quand ils sont encore jeunes hommes et qui sont en train d'inventer en toute innocence, sans vraiment comprendre ce qu'ils font, un mode de comique totalement irrévérencieux, totalement générationnel, qui parle très fortement aux gens qui avaient 20 ans en pleine guerre du Vietnam et qui va totalement électrocuter l'industrie du showbiz américain au milieu des années 70. Et puis la partie peut-être quand même la plus forte dramatiquement, à la fois très cocasse et très bouleversante, c'est tout ce qui a trait à la drogue, puisque John Belushi est foudroyé à 33 ans par une overdose et qu'il était vraiment junkie à un niveau hallucinant. Donc ses producteurs, par exemple, payaient des gens pour le surveiller, empêcher de se droguer. Mais il était tellement malin comme un singe, il réussissait à les embobiner et à faire que les gens qui devaient le surveiller devenaient ses dealers et ses meilleurs potes de défense. Et à un moment donné, lui-même va payer un ancien agent de la CIA, un vieux retraité hyper professionnel, qui doit le surveiller. Et ce monsieur témoigne dans le livre de Bud Bouart et dit qu'il était face à une sorte de double bind, de situation impossible à résoudre, puisque d'un côté, s'il travaillait trop bien et qu'il empêchait John Belushi de se droguer, il pouvait se faire virer, parce que John Belushi était en manque et pas content du tout, mais que s'il travaillait pas, il ne servait à rien et il pouvait se faire virer. Et de fait, il va se faire virer. Donc il y a vraiment des choses très fortes et très cocasses à la fois. Et on se dit que vraiment, ça serait la matière idéale pour un film de Scorsese.
John Belushi, c'est un comique que vous avez regardé aussi, Pierre Etex ?
Je ne situe pas. C'est terrible, je n'ai pas connaissance. Vous avez cité Charlie Chase, oui, ça j'ai connu, mais pas dans mon enfance. Mais je n'ai pas vu après les films.
De votre côté, Emmanuel Muret, c'est une histoire de la comédie américaine que vous connaissez ou...
Non, pas vraiment.
C'est pas la même période.
Oui, je vois.
Le rendez-vous.
C'est troublant, c'est émouvant, c'est vibrant.
Je ne cherche pas à vibrer. Non, je veux vivre une relation en toute confiance, sans avoir besoin de mentir.
Mais tu sais, le mensonge, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire.
Plateau trio avec vous, Emmanuel Mouret, cinéaste et comédien. Vous signez votre 8e film, Caprice, il est vêtu, un baiser s'il vous plaît, l'art d'aimer, donc on voit toute la sémantique qui se met en place. Caprice, c'est l'histoire de Clément que vous interprétez, un instituteur sidéré d'être aimé d'Alicia, qui est une célèbre actrice de théâtre, la très blonde Virginie Efira. C'est alors que déboule Caprice, qui est jouée par Anaïs de Moustier, une jeune fille très obstinée, une aspirante comédienne, qui elle est persuadée d'avoir trouvé en Clément l'homme de sa vie et qui va s'installer dans sa vie justement de façon extrêmement volontaire. Et puis s'ajoute à ce nœud, parce que ça ne suffisait pas, un second trio qui fait intervenir Thomas, c'est joué par Laurent Stocker, qui est le meilleur ami de Clément et qui pourrait bien se rapprocher d'Alicia. Pour bien comprendre, bande-annonce.
C'est étrange, vous trouvez pas ? La coïncidence.
La coïncidence ?
C'est la troisième fois. La troisième fois qu'on est assis à côté.
Je vous ai vu dans la salle. Vous êtes revenu voir le spectacle, c'est très aimable.
Chaque fois que je vous vois, ça me fait la même chose.
Votre métier, c'est formidable.
Je pense que je ne suis pas aussi bon enseignant que vous l'imaginez.
Je suis sûre que si. Je le vois à votre tête. On peut peut-être s'embrasser.
Ah, pardon, excusez-moi. Enfin, quand vous avez dit s'embrasser, vous vouliez peut-être dire se faire la bise.
Mais tu crois que c'est l'histoire d'un soir ou que c'est sérieux ?
Elle a dit à très vite, si tu le veux bien.
Je te plais pas ?
C'est que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie.
Ça me dérange pas.
Oh, t'es là. C'est pour moi.
Tu pourrais nous rendre heureuses toutes les deux si tu le voulais. Mais en choisissant d'être fidèle, tu choisis de me faire du mal.
Mais je veux pas te faire de mal.
Alors sois infidèle. Faut juste que tu saches qu'à partir de maintenant, mon corps est à toi.
Est-ce que je suis vraiment avec elle ? Ou avec l'actrice que j'admire depuis des années ?
On n'arrête pas de se croiser, ça doit vouloir dire quelque chose, tu trouves pas ?
C'est un signe du destin, ça.
Je suis désolée, y a pas d'autre sortie.
Bon courage, Don Juan.
Lorsqu'on entend dans cette bande-annonce Emmanuel Mouret, d'abord c'est la vitesse d'élocution d'Anaïs de Moustier, on dirait de neuf. C'est la musicalité de votre cinéma, ça passe d'abord par les dialogues, parce que chez vous le cinéma est extrêmement dialogué. Est-ce que vous veillez précisément aux intonations de vos acteurs ? Est-ce que vous travaillez sur leur musicalité ? Est-ce que vous êtes précis à la virgule pour les textes ? Un peu.
Alors, je crois, mais sans m'en apercevoir. Disons que je suis attentif à une façon, en tout cas, de de le dire, mais je crois que déjà les comédiens l'anticipent de par les lectures
qu'ils ont eues auparavant, oui.
Et c'est vrai que je suis sensible à ce que les dialogues soient dits, entre, pas toujours, mais avec une certaine candeur. Quand je parle de candeur, ça veut dire que les personnages ne préjugent pas trop des choses avant. C'est des personnages qui, en tout cas, donnent à lire ce qu'ils ressentent, ou parfois à lire leur mauvaise foi. Mais...
Je sais que vous travaillez très peu en amont, c'est ce qu'on peut lire en tout cas dans les entretiens avec vos acteurs et vos actrices. Vous leur en dites très peu sur leurs personnages. Est-ce que vous leur demandez quand même de regarder des films ou des images en particulier qui puissent donner des indications d'espace, de rythme ou d'ambiance?
Oui, parce que quand même, je donne pas d'explication de personnages parce que je pars du principe que les personnages sont plus définis par leurs contradictions que par une définition. J'essaye à travers les lectures de... Oui, parfois j'évoque, non, c'est vrai, des films, des actrices que j'aime. Je cherche surtout... À rendre surprenant chaque chose. Et c'est pour ça que c'est assez difficile d'en parler qu'on ne s'arrête jamais à une seule couleur et que les personnages aient plus de couleurs. Grosso modo, je cherche un peu à me surprendre et à surprendre et, en ce qui concerne les actrices, à être charmées. Je cherche aussi mes mots parce que...
Donc vous essayez de faire, en faisant le film, exactement ce que vous êtes dans le film, puisque dans le film, vous êtes charmé par les actrices qui jouent des rôles d'actrices précisément. Quel genre de film vous leur avez montré? Quelles actrices vous leur avez montré d'ailleurs?
Non, j'ai pas montré de film. J'aime bien évoquer, c'est vrai, des actrices comme voilà Audrey Hepburn, Shirley MacLaine.
Du côté des États-Unis. En France?
En France, il y a une actrice auquel je pense souvent, qui me marque beaucoup, qui est Anne Vernon, qui jouait dans Édouard et Caroline ou Rue de l'Estrapade, comme dans Les Parapluies de Cherbourg, voilà.
Manouf.
À propos peut-être justement de ce phrasé un peu candide, hein, comme vous le disiez, il y a quelques années dans un entretien, vous disiez dans mes partis pris cinématographiques, je vais délibérément contre le réel. Est-ce que c'est quelque chose que vous diriez toujours aujourd'hui? En tout cas, un cinéma forcément non naturaliste, ou ça ne vous conviendrait pas non plus, Manuel
Moret? Alors, c'est pas tant d'aller contre, parce que je pense pas que mon cinéma est antinaturaliste, mais c'est d'assumer que je fais de la science-fiction d'une certaine manière. Je pense que tout film est une fiction, et que le cinéma qui se prétend du réel, les cinéastes qui disent voilà, ça c'est la vie, je trouve ça extrêmement fallacieux, trompeur. Il y a cette formule, sans être pompeux, de Lacan qui disait que le réel c'est l'impossible. Et je crois que voilà, on peut déterminer la taille moyenne des cailloux, mais on peut en prendre un million, mais aucun caillou n'aura la même taille. Et je crois que le cinéma est plus un art du cas particulier. Et ce qui nous intéresse, nous, en tant que spectateurs, c'est des cas particuliers, parce que on se considère nous-mêmes comme un cas particulier. Donc, la référence à la vie et au réel, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je préfère suivre le chemin du ressenti. C'est comme en peinture. Une peinture n'est pas intéressante parce qu'elle ressemble extérieurement à un objet, mais c'est son ressenti qui importe. Voilà.
Alors, on parlait de la musicalité des dialogues, mais la musique est aussi très présente. On l'a entendu un peu dans la bande-annonce. Une musique aux accents jazz qui est signée Giovanni Mirabassi, ouais, c'est ça, qui évoque tout aussi bien les classiques des comédies des années 50 que des films d'Yves Robert. Mais il y a aussi une musique aux accents très Danny Elfman, qui est le compositeur de Tim Burton, qu'on entend dans cet extrait. C'est l'apparition de Caprice, donc la jeune comédienne aspirante, sur une scène de théâtre. Qui imposait une telle musique, voilà. On se croirait dans Édouard, l'homme aux mains d'argent de Tim Burton.
Le merveilleux.
Donc la référence est complètement assumée.
Complètement assumée. Le film oppose en fait deux comédiennes, l'une qui est célèbre et qui a un statut de comédienne, on va dire, célèbre, qui joue dans des théâtres à l'italienne, dans des mélodrames, voilà. Il fallait à un moment donné montrer le spectacle de cette jeune comédienne qui s'appelle Caprice dans l'histoire et qui est interprétée par Anaïs de Moustier et qui est une comédienne qui fait du théâtre sans un sou dans des entrepôts en banlieue. Et je voulais que ce spectacle ait un caractère merveilleux. Et donc, évidemment, c'est la musique qui nous tend la main pour aller vers ce merveilleux.
Manu.
Vous parliez, Emmanuel Mouret, à l'instant du cinéma que vous vouliez défendre, en tout cas de celui que vous ne voulez pas défendre. Votre tout premier film, c'est un court-métrage, je crois que vous aviez 19 ans en 97, qui s'appelait « Il n'y a pas de mal ». De quoi s'agissait-il exactement ? Est-ce que vous y aviez déjà posé les fondations de ce qu'on peut voir aujourd'hui ?
Alors, il n'y a pas de mal, oui, c'est un film que j'ai fait. Je ne sais pas, c'est peut-être un film beaucoup plus... Il n'y a pas de musique dans ce film, c'est un film de dialogue. C'est un film que je n'ai pas revu d'ailleurs depuis,
vous
depuis
y jouez
cette
dedans
date-là. Je n'y joue pas dedans. Et je crois que c'est un film qui est... très fortement inspiré par mon goût pour l'œuvre d'Éric Rohmer, oui.
Avant de faire la fémis sur le tas, vous avez fait des cours d'art dramatique pendant 4 ans. Quel acteur vous vouliez être à cette époque-là ? Dans quel cinéma ou dans quel théâtre vous projetiez-vous ?
Alors, je n'ai jamais rêvé d'être comédien. J'avais fait un premier court-métrage avant celui-là, d'ailleurs que j'ai enterré quelque part. J'avais 19 ans et ça avait été tellement compliqué pour moi de m'adresser aux comédiens. Et puis, je me suis aperçu que mon scénario n'allait pas. Que j'avais décidé deux choses. Un, de prendre des cours d'art dramatique pour pouvoir m'exprimer aux comédiens. Et j'avais entendu cette phrase de Jean-Luc Godard qui disait « Seuls les Américains savent raconter des histoires ». Et donc, je m'étais dit, pendant cette année, je vais lire tous les manuels de scénarios américains. Et donc, je l'ai fait en fait pour apprendre le travail de comédien, mais sans ambition de l'être.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé à vous aussi de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi, Emmanuel Mouret. Identification de ce son qui est un hommage peut-être à Pierre Etex, d'une certaine façon.
Tout à fait, je savais que Pierre Etex était là, et donc je voulais partager ce son avec Pierre Etex.
Qu'est-ce qu'on entend ?
Ben, on entend la musique de mon oncle.
Sur laquelle a travaillé Pierre Etex, quand même. De Tati.
De Tati. Et c'est une musique, évidemment, qui m'a bercé, mais qui continue de me bercer toujours, puisque j'ai beaucoup d'enfants. Et donc, au fur et à mesure, c'est un film qui ne cesse de passer à la maison. Et puis aussi, peut-être pour dire deux mots sur le merveilleux qu'évoque à la fois l'œuvre de Tati et cette musique qui est pour moi quelque chose de doux, de tendre, de mélancolique également. Et l'œuvre de Tati est une œuvre qui continue énormément de m'inspirer, non pas dans le visuel, mais dans ce rapport de tendresse avec ce qu'il critique. Et c'est ça qui est, à mon avis, extrêmement émouvant chez Tati. Il s'en est toujours quelque part... il s'est toujours, entre guillemets, attaqué au monde moderne. Et en même temps, on sent un tel amour aussi pour ce monde et pour ses personnages. Il y a quelque chose d'ambivalent dans la tendresse pour ce qu'il critique. Et c'est quelque chose que... Alors, je ne veux pas parler d'amour, le mot est exagéré, je vois votre tête, Pierre Etex.
qui est dubitatif. Le mot amour,
le mot amour est exagéré, mais tout est à peu près imparfait dans le monde, et pourtant, il y a un accord qui se dessine, une certaine forme... d'indulgence, et malgré tout.
Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Etex ?
Pas du tout.
Pour quelle raison ? En très peu de mots.
Ouais. Oh, en très peu de mots, Tati était un homme qui était très rigoureux, c'était un maître à penser, c'était enfin, c'est un bien grand mot dire maître à penser, c'était surtout un homme qui imposait ses volontés, mais qui était d'une cruauté vis-à-vis des autres, parce que je l'ai vécu, d'une cruauté peu habituelle. Et toute apparence qu'il donne dans ses films, c'est le contraire de ce qu'il était réellement. En ça, c'est justement, ça rejoint complètement ce que vous disiez tout à l'heure, un film...
C'est de la science-fiction.
C'est de la science-fiction, mais ça part d'une réalité, ça part d'une observation, et évidemment, il ne s'agit pas de reproduire ce que l'on voit dans la vie. Ça, le cinéma vérité, vous l'avez dit à juste titre, c'est une absurdité. Ce qui est merveilleux, c'est que en s'inspirant d'une réalité, on peut aller bien au-delà. Et n'importe quelle expression artistique est dans le même cas, et se trouve dans le même cas. C'est-à-dire que la peinture, ça n'est pas la photographie, et la photographie n'est pas non plus le réel. Je veux dire que ce qui compte, c'est l'interprétation que l'on fait de choses que l'on a observées ou que l'on a vues, quoi. Bon, je suis désolé.
Ah ben, je... C'est vrai que je suis sensible à ce que les dialogues soient dits toujours, mais avec une certaine candeur.
Oh ben ça, c'est les pieds nickelés au Far West.
Merci à nos invités. Emmanuel Mouret, Caprice, c'est sorti en salle aujourd'hui. Pierre Etex, la rétrospective Buster Keaton, c'était à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 1er juin. Je rappelle que vous participerez à la table ronde Buster Keaton, cinéaste sur le fil, samedi, 16h45, salle Henri Langlois à Paris. Et puis je signale aussi la parution d'un petit chef-d'œuvre, c'est votre petit Napoléon illustré avec Jean-Claude Carrière aux éditions Wombat, la réédition d'un roman graphique de 1963. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Et puis, et je conclue là-dessus, nous sommes, nous les humains, comme des porcs-épics en hiver. C'est-à-dire que nous avons froid, donc nous rapprochons des autres. Et quand on s'en rapproche, on s'en pique. Et comme on s'en pique, on s'éloigne. Et comme on s'éloigne, on a froid, donc on se rapproche. Donc il faut trouver la bonne distance. Et cette bonne distance, c'est la politesse.
Eh bien, demain, ce sera une émission La Politesse, un peu Vie ma vie, avec l'écrivain François Bégodeau et le critique de cinéma Olivier Séguret. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Adrien Nazelli et Elsa Béranger, journal de la culture Zoéspace, chronique Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Stéphane Poitvin et Anthony Thomasson, et à la réalisation Thomas Beau.
Et avec un peu de retard, puisqu'il est 19h55, vous êtes sur France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.